fidèle au poste. Xavier Nataf, Radio Judaïka.
heures sur Judaïka, c'est fidèle au poste. Bonjour à toutes, bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour cette demi-heure de culture, de pop culture et de bonne humeur. La seconde partie de notre émission sera consacrée à l'immense René Goscinny. Mais après cette première et belle pause musicale, nous avons rendez-vous avec la folle épopée de Victor Sanson.
Try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. Never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Change the color of your hair. You always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want ever conversation. I never to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be same old someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you, and that's forever. And this I promise from the heart. I could not love you any better. I love you just the way you are. Just the way you are. Oh.
Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Je ne sais pas si comme moi vous aimez des aventures de Tintin, des films comme L'Homme de Rio, Les Tribulations d'un Chinois en Chine, mais si c'est le cas, alors vous allez certainement adorer La folle épopée de Victor Sanson, le nouveau roman de Laurent Sexic. L'histoire commence en 1913 quand le jeune Victor Sanson veut réaliser le rêve de son père, Jacob, et faire découvrir au monde entier la Jacobine, une boisson gazeuse qui fait des miracles. Prévoyant embarquer pour l'Amérique et convaincre les dirigeants d'une célèbre marque de boissons gazeuses à base de coca et de cola pour un partenariat historique, Victor se retrouve, bien malgré lui, soldat dans les tranchées de la guerre de 14, puis espion à Berlin, héros de la Révolution soviétique et acteur à Hollywood. Tel le personnage de Forrest Gump, joué par Tom Hanks, ou de Zelig, le film de Woody Allen, il croisera sur sa route des personnalités de son époque, telles qu'Albert Einstein, Jean Jaurès, Léon Trotsky ou encore Charlie Chaplin. Un joli roman d'apprentissage et d'aventure où le héros rencontrera la plus belle des amitiés, le visage de la haine et l'amour avec un grand A. Et si la couverture du livre parle de roman jeunesse, c'est parce que cette trépidante histoire peut être lue par des adolescents, mais aussi, assurément, par des adultes. Laurent Sexic.
Je crois que ce livre peut être lu par des adolescents qui justement découvriront l'histoire de ce petit garçon, Victor, qui partant de son village natal parce que son père a été assassiné dans des circonstances terribles, et notamment en raison de son origine, juive d'ailleurs, va traverser le monde. Et puis, il peut être tout à fait, je crois, être lu par des adultes parce qu'il a les mêmes ressorts en tout cas que mes autres romans, c'est-à-dire qu'il est il est basé sur l'émotion, sur l'histoire, sur la rencontre avec des personnalités comme dans mes romans Les Derniers Jours de Stefan Zweig, Le Cahier d'Edward Einstein. En effet, c'est un roman qui a une double lecture. Peut-être une forme de premier degré pour les enfants, et puis un second degré, parce que, à la différence de mes romans précédents, il y a beaucoup d'humour, dans la mesure où les aventures de ce personnage confronté à la monstruosité de son époque, bien elles sont gorgées de dérision, d'autodérision, et c'est peut-être ça qui en fait le sel.
Parce que Laurent Sexic fait fonctionner son écriture à plusieurs niveaux, comme un René Goscinny pouvait le faire en écrivant les aventures d'Astérix. C'est compréhensible par un jeune public et c'est bourré de références et de jeux de mots pour des lecteurs plus adultes. L'auteur n'hésite d'ailleurs pas à créer une complicité avec son lecteur, capable d'écrire des phrases comme « Vous pouvez sauter les trois pages de description à venir, vous ne perdrez rien à l'intrigue », ou en créant des bas de page hilarants en forme de clin d'œil, ou encore de dire de son héros « C'est comme si un auteur avait décidé de lui faire vivre des aventures délirantes ». Un roman donc, bourré d'humour juif, dans une Europe d'abord, puis à travers le monde, où règnent la guerre et les révolutions, et où il ne fait pas toujours bon vivre quand on s'appelle Victor Sanson et que son père est mort dramatiquement dans un pogrom qui ne dit pas son nom.
Cette dérision, cette autodérision, ces clins d'œil, c'est quelque chose que finalement je n'avais pas encore mis dans mes romans précédents, avec toujours les mêmes soucis, les mêmes références à l'histoire juive, et finalement mes modèles sont toujours là, Philippe Roth, peut-être le Philippe Roth du complexe de Portnoy ou de Professeur de Désir, ou les Valeureux d'Albert Cohen, il y a une fibre là qui m'est chère. Tous mes romans, finalement, sont empreints de ces racines juives. Mais, comme dans tous mes romans aussi, alors, le pendant sombre de cette histoire, c'est Les Derniers Jours de Stefan Zweig ou le cas d'Edward Einstein, mais peuvent être reconnus par tous et se reconnaître sans rien renier voilà, des origines de Victor Sanson. Et c'était très amusant à faire, même si je le prenais très au sérieux. Mais c'est comme ça qu'on s'amuse, je crois aussi, dans l'écriture.
La folle épopée de Victor Sanson, un roman plein de péripéties, d'aventures et d'humour, signé Laurent Sexic, est disponible aux éditions Flammarion.
Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Chérim.
לפחות לעודד את כל האהבות הראשונות. האוהבים המתנשקים על הספסל, 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 ומצפצפים על מבטי העוברים בדרך. האוהבים המתנשקים על הספסל, 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 מצייצים בכל חנות כל כך המון.
Public.
Ça, c'est le foie de volaille aux petits oignons. La tarte farcie, les pirochki, les boreks, le pastrami.
Mais ça, c'est pas de la cuisine de chez vous.
Oh non, on a commencé par en faire, vous pensez bien. Mais les gens ici, ils en ont marre. Il y a trop de restaurants de couscous maintenant. Alors avec mon frère, on a fait américain. Délicatessen. Vous voulez goûter?
C'est pas du porc.
Oh, dites pas chez nous, hein. Non, c'est du bœuf. C'est un peu fade, mais c'est pas mauvais.
Un jour, un podcast.
dans Un jour un podcast, on essaye de dégoter pour vous des productions audio passionnantes. Aujourd'hui, un portrait de René Goscinny créé par France Culture. Petit extrait de ce podcast.
René Goscinny, quand il a connu un succès
Pascal Horry,
national puis mondial avec
historien.
Astérix, a été souvent considéré comme une sorte de français moyen, un peu franchouillard sur les bords, vaguement gaulliste, etc. On est dans les années 60, il y a eu des articles très sérieux dans Le Monde et ailleurs qui glosaient là-dessus. Alors que quand on voit sa biographie, c'est un enfant d'immigré, hein, comme Uderzo, qui est un fils de Rital. Et René Goscinny, lui, est né à Paris en 1926, mais juste après la naturalisation de ses parents, qui venaient, pour ce qui est de son père, de ce qu'on appellerait aujourd'hui la Pologne, et du côté Bérezniak, du côté de la famille de sa mère, c'est partagé entre l'Ukraine, la Pologne, la Biélorussie. Ce sont des Juifs de l'Empire russe. Ce qui fait que Goscinny est quand même un Français de fraîche date. Et de surcroît, à peine né, il a 2 ans, il franchit l'Atlantique. Il se retrouve en Argentine, français, expatrié.
René Goscinny, Antenne 2, 1975.
Et c'est là où la vie d'un enfant à l'étranger est curieuse. J'avais toujours mes liens avec la France. Chez nous, on parlait français, j'allais dans un collège français, je faisais des études françaises. Mais pour moi, il y avait des termes d'un exotisme extraordinaire. C'était Corrèze, Angoulême, Limoges, les Deux-Sèvres. Tout ça, c'était terriblement exotique. Ce qui était banal, c'était Gaucho, Mendoza, les Andes. La Pampa, ça c'était banal. Par contre, la Corrèze.
Mon grand-père a eu un poste d'ingénieur chimiste à Buenos Aires. Ça, c'est la version officielle. En réalité, mon grand-père travaillait pour la
Anne Goscinny
Jewish Colonization Immigration, qui est un organisme fondé par le baron de Hirsch, qui crée en Amérique latine des colonies juives d'Europe centrale. Donc, mon grand-père faisait venir effectivement des juifs d'Europe centrale en Amérique latine, et paradoxalement, il n'a pas pu faire venir sa propre famille, qui est morte pour partie dans le ghetto de Varsovie, et sinon déportée à Auschwitz.
Qu'est-ce qu'on sait du petit René Goscinny ? À quoi il ressemblait ?
C'était un enfant vraisemblablement qui aimait avant tout faire rire, qui était aussi extrêmement angoissé, mais je pense que les nouvelles de la vieille Europe donnaient au foyer une coloration assez sombre. Mais je pense que c'était un enfant tel que je me le représente, un enfant assez gai, atypique probablement, passionné par le dessin, puisqu'il commence par le dessin, et par le cinéma, et par le fait de raconter des histoires.
Et je crois qu'il avait envie de faire un métier rigolo.
Ouais, bah il l'a fait. Il a fait rire une partie de la planète, c'est pas mal.
Oh, dans ma jeunesse, vous savez, depuis ma plus tendre enfance, je n'avais qu'un rêve, c'était de faire rire les gens. C'était glandulaire chez moi. Je crois que j'ai commencé à faire des grimaces bien avant de commencer à parler.
Heureusement, son père, tous les 2-3 ans, peut faire un voyage en France et emmène sa famille passer des vacances. Et alors, passer des vacances en France, c'est-à-dire que c'est tout de suite plusieurs semaines, même des mois, parce qu'il faut déjà plusieurs semaines de traversée en paquebot. Et après, en France, il découvrira les Pieds Nickelés. Il découvrira aussi Walt Disney. Il va recopier Blanche-Neige, Pinocchio, tous les dessins de Walt Disney qu'il aura vus au cinéma sur les grands boulevards avec son père. Et ça va pratiquement lui donner envie de faire son métier plus tard, hein, de faire de l'animation ou du dessin. Et il dessine tout le temps, il recopie les illustrés qu'il trouve. Il est très bon élève, mais il aime faire rigoler les autres. Et son obsession, c'est de faire rire de toutes les manières. Et la meilleure façon, c'est finalement le dessin. Bien sûr, il découvre aussi sur les grands boulevards avec son père Laurel et Hardy, et c'est une révélation pour lui. Parce que c'est vraiment l'incarnation de l'amitié et de la complicité improbable de deux personnages qui sont vraiment antinomiques. Et c'est là que René découvre le pouvoir en fait du duo, du binôme, la capacité à faire rire en étant à deux, en jouant sur les contrastes et les complémentarités.
Que vous aviez envie de voir les carnets de croquis de mon père. Il a fait beaucoup de caricatures.
Donc c'est seulement du dessin, il n'y a pas du tout de texte.
C'est seulement du dessin et c'est seulement du crayon à papier, comme vous pouvez voir. C'est quand même un dessin assez abouti, hein. C'est pas rien, quoi.
Pourtant, lui-même disait qu'il dessinait de façon médiocre. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense qu'il a rencontré les meilleurs dessinateurs du XXe siècle. Je pense à Albert Uderzo, évidemment. Je pense à Maurice, qui tenait pour un génie. Je pense à Jean-Jacques Sempé. Je pense à Jean Tabary, dont on parle plus assez. Il était également très copain avec Franquin. Et il a été assez lucide et assez intelligent pour comprendre que ce qu'il faisait de mieux, c'était le scénario et c'était raconter des histoires. Ça, c'est lui, c'est un autoportrait de lui. On peut pas dire qu'il se valorisait énormément, mais il était assez
lucide. Pourquoi
alors
pas ? Est-ce qu'on peut décrire un peu sa tête ?
Voilà, on voit un petit bonhomme avec une valise, des fossettes et des cheveux crépus, heureux de vivre. Alors là, il a dessiné toute une famille de nazis qui s'appelait la famille Müller. Là, on voit Hitler dans un cadre.
Et à droite, c'est Philippe Pétain, et devant, c'est Pierre Laval. Pourquoi est-ce qu'il a représenté ces...
Mais parce que je pense que, vous savez, c'était une famille juive ashkénaze. Ils ont laissé en France et en Pologne, la famille maternelle de mon père restait en France et la famille paternelle de mon père restait en Pologne. Certains ont pu partir en Belgique, mais bon. Les lettres et les nouvelles qui arrivaient jusqu'à eux étaient quand même de plus en plus angoissantes et anxiogènes. Et il se trouve qu'en 1944, sa famille maternelle avait déjà été assassinée, puisqu'ils ont été assassinés en avril 1942. Donc il n'y avait plus de lettres, plus de nouvelles. Et d'ailleurs, le père de mon père, qui lui n'avait plus de nouvelles du tout de sa famille restée en Pologne, est mort en 1943 d'une attaque.
Et votre père, est-ce qu'il en parlait de ce traumatisme de sa famille perdue pendant la guerre ?
Mon père est mort en 1977, il avait 51 ans, c'était pas tout à fait prévu qu'il meure si tôt. Et sans doute, il en aurait parlé, mais il faut recontextualiser les choses. En 1977, la parole n'était pas encore tout à fait libérée pour les gens qui avaient dans leur chair souffert de tout ça. Mon père était plutôt du genre à dire on va rire et on pleurera plus tard, si on a le temps. Donc, il n'a pas eu le temps.
Extrait du podcast proposé par France Culture sur René Goscinny, appelé René Goscinny, acteur majeur pour art mineur. Je vous invite évidemment à l'écouter en intégralité en allant sur la plateforme de Radio France.
Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains des camps retranchés de Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petit Bonhomme.
Présentez Pilum !
Le camp romain de Petit Bonhomme est en effervescence, car le préfet des Gaules, Caligula Alava Comstepus, vient rendre visite au centurion Gracchus Nanchetepus. Le préfet arrive de la côte toute proche, où sa galère a fait escale.
Bye.
vous avez peut-être reconnu le générique historique des aventures d'Astérix. Ainsi se termine notre magazine du jour. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de Fidèle au poste. Nous nous intéresserons, entre autres, au chanteur à la voix d'or Mike Brandt et au dessinateur Luz qui vient de remporter 2 prix au Festival d'Angoulême. Je vous laisse en bonne compagnie avec les programmes de Radio Judaïka et je vous retrouve demain à 14h. Bon après-midi!